pour cette année qui commence, le Club des Hommes en Noir vous propose tout simplement un retour sur l'année 2022 et une projection sur cette nouvelle année qui a commencé depuis quelques jours. Quels sont les grands événements, quelles sont les grandes personnalités, les grands livres éventuellement qui ont été retenus par nos invités, et comment voient-ils cette année 2023, année de grâce 2023 qui se profil, mais qui est déjà bien entamé. Pour cette émission de bilan et de perspective, j'ai le plaisir de recevoir le père Jean-François Thomas. Bonjour mon père.
Bonjour monsieur.
Merci de votre présence. Bonne année.
Bonne année à vous. Oui.
Sainte année, oui. L'abbé Grégoire Cellier.
Bonjour monsieur Maxence et bonjour à tous les spectateurs que je salue pour cette année 2023.
Tous mes voeux. Pour cette
merci et à vous aussi.
Merci d'être présent dans ce club 2023. Madame Jeanne Smith.
Bonjour à tous. Très belle et sainte année 2023.
À vous également. Merci également de votre fidélité. Et puis, nous l'avons accueilli à la fin de 2022. Nous l'accueillons au début 2023. Nous sommes vraiment des gens exceptionnels. Nous avons la chance de recevoir Olivier Figueras.
Eh bien, tous mes voeux à vous, Philippe Maxence, continuez à être exceptionnel, et tous mes voeux aux auditeurs, aux téléspectateurs, pardon.
C'est vous qui êtes exceptionnel. Alors, madame et messieurs, quel bilan, question très large, hein, mais très facile pour moi, quel bilan de l'année 2022 qui a été, à laquelle il y a eu quand même des événements assez marquants. Je ne sais pas qui veut commencer.
Oui, je veux bien commencer.
comme d'habitude.
L'abbé Cellier aime donner le top départ de cette émission.
Moi, j'ai retenu trois événements. Bien sûr, l'offensive antitraditionnelle venue de Rome, qui est quelque chose d'assez fort, d'assez important, n'est-ce pas? Deuxièmement, je ne dis rien de bien drôle. Hein. Deuxièmement, les graves remous qui agitent actuellement l'Église. Le synode allemand qui nage en pleine hérésie, les déclarations plus ou moins LGBT des évêques flamands, enfin des évêques néerlandais, le scandale des évêques en France qui va encore malheureusement certainement avoir des rebondissements. Donc c'est le deuxième point qui m'a frappé. Et puis le troisième point, c'est le conflit ukrainien sur lequel je n'ai pas d'avis particulier, qui ne m'intéresse pas beaucoup, mais qui a révélé de façon criante que la France et l'Union européenne sont désarmées sur le plan industriel, sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan diplomatique, sur le plan démographique, etc., face aux USA. Nous sommes en train d'être vassalisés par les USA encore plus que d'habitude, n'est-ce pas? Nous menons les guerres qu'ils veulent, nous achetons leur gaz, etc., face à la Chine, qui, dans lequel nous fabriquons une bonne partie de ce que nous consommons et qui nous va nourrir au nez le jour où elle le voudra, face à la Russie qui mène la guerre à nos frontières, et même, je dirais, même face à l'Afrique, nous avons replié les Gaules au Mali de façon assez peu, magnifique, n'est-ce pas?
Dites-moi, c'est un bilan
plutôt négatif sur les grands événements qui ont marqué. Après, l'état d'esprit, c'est autre chose, on verra ça un peu plus tard, mais sur les grands événements qui ont marqué cette année, voilà, c'est ça que j'ai retenu. Peut-être que je suis un pessimiste. Hein.
Peut-être, mais ça, vous le savez mieux que moi. Je vous laisse le jugement. Mon père, père Jean-François Thomas, est-ce que vous allez aller dans ce sens très pessimiste ou au contraire, vous allez nous offrir un regard sur 2022 un peu plus...
Oui, un catholique n'est ni pessimiste ni optimiste, donc il est réaliste, normalement.
Normalement, oui.
Oui. Non, je regarde cette année comme toutes les autres années. Chaque année est donnée par notre Seigneur. C'était la belle formule qu'on employait autrefois. Chaque année est une année du Seigneur. Donc il faut toujours regarder chaque année de cette façon-là. Ensuite, évidemment, ne pas être aveugle. Pour reprendre les catégories qu'a utilisé M. l'abbé Cellier, en ce qui concerne l'Église, comme lui, je suis tout de même très frappé par le durcissement qui s'est produit en ce qui concerne la position de toutes les autorités de l'Église, de la plus haute aux plus moyennes vis-à-vis de la tradition. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui aura des répercussions dans les années à venir. Pas des répercussions sur la tradition, parce que je suis absolument convaincue qu'elle se porte de mieux en mieux, mais qui aura des répercussions sur la vie de l'Église en tant que telle. Et puis, en ce qui concerne la société française, moi, je suis vraiment attristé de voir que c'est la construction de la peur et de l'angoisse régulièrement de la part des autorités politiques et des hauts fonctionnaires. Ça a marché pour le virus, donc ça va marcher aussi dans d'autres domaines. Et également la décadence de la vie politique. Je n'ai jamais mis, évidemment, mon admiration et mon enthousiasme dans la vie politique républicaine, mais là, on atteint quand même des stades qui sont absolument catastrophiques et qui sont pitoyables. Et puis, dans la vie internationale, c'est le manichéisme de l'Union européenne et bien évidemment de la France en ce qui concerne les grands événements qui peuvent se produire et qui ne sont pas directement liés à notre politique intérieure. Mais comme l'a dit M. l'abbé Cellier, maintenant, c'est clair, nous sommes les petits chiens d'autres puissances. Alors ça peut être les États-Unis en ce qui concerne la vie politique. Maintenant, pour la vie économique, il me semble que c'est plus du côté de l'Asie qu'il faut découvrir nos servitudes.
Finalement, vous entrez tous les deux, enfin les deux ecclésiastiques présents, faites à peu près le même constat des grands faits qui vous ont marqué pour 2022. La surprise va-t-elle venir du laïcat féminin, Jeanne Smith ?
Allons-y alors. Oui, forcément, les événements que vous avez cités nous ont tous énormément frappés. Et notamment, cette espèce d'impression de déliquescence de l'Église. Mais comme disait Chesterton, l'Église est un navire qui sombre et puis on s'aperçoit que c'est un sous-marin, après tout. Il y a eu, ce qui m'a fortement frappé, c'est les changements à l'Académie pontificale pour la vie et à l'Institut Jean-Paul II pour la famille, où vraiment tout un travail de sauvegarde morale est en train d'être détruit de façon extrêmement méthodique par la nomination de personnes qui sont pour l'avortement, pour la contraception, pour diverses formes d'euthanasie. Enfin, on a l'impression vraiment de nager dans une Église qui a perdu le cap. Mais au fond, il y a eu aussi d'autres événements qui m'ont paru, eux, extrêmement positifs. Et je pense notamment au renversement de Roe versus Wade aux États-Unis, donc la décision jurisprudentielle qui avait fait de l'avortement une affaire de vie privée dont on ne pouvait pas priver les femmes dans tous les États des États-Unis. Depuis ce renversement qui a été quand même obtenu de très hautes luttes, mais de luttes très anciennes, c'est-à-dire que ce sont des décennies de manifestations, de prières, d'actions et de droiture, parce qu'aux États-Unis, le combat pro-vie, c'est pas d'avortement, pas d'exception. Ils ont quand même réussi à rendre aux États la possibilité de mettre fin à ce massacre des innocents dont nous parlions il y a une ou deux semaines. C'est véritablement un coup de tonnerre qui écarte les nuages et qui lui montre le ciel bleu pour dire qu'il y a des choses qui sont possibles. Il y a cette chose-là. Il y a, je n'ai pas une énorme affection. Si, c'est autre chose qu'il faut dire. J'ai beaucoup de réticence par rapport aux enseignements, entre guillemets, du pape François. Mais néanmoins, il a choisi de consacrer le monde au cœur immaculé de Marie. Il était peut-être le seul en tant que pape progressiste à pouvoir emporter l'adhésion d'une très grande quantité d'évêques à travers le monde. Il l'a fait. On me dira c'était insuffisant, on me dira ceci, on me dira cela. C'était, me semble-t-il, quand même une étape très importante. Et le troisième élément non politique, plutôt religieux, qui m'a beaucoup frappé, c'est le lancement des chapelets publics de la France Prix. Qui est un renouvellement, une édition nationale française de ce qui a commencé en Autriche et qui a apporté la preuve qu'en priant, on peut contrer ces abominables peurs qui s'accumulent, dont vous avez parlé, mon père. En Autriche, les familles avaient une peur bleue de l'obligation vaccinale. Elle s'est évaporée comme de l'eau au soleil brûlant, à la suite de ces prières. Je pense qu'il faut le noter. Et je pense que lorsqu'on nous parle, effectivement, de l'homme qui est en trop sur la planète, on n'arrête pas de nous le dire. Et on n'arrête pas de nous dire, de toute façon, il n'y a plus d'antibiotiques, donc tout le monde va mourir. De toute façon, il y a un virus, donc tout le monde va mourir. De toute façon, il va y avoir des attaques nucléaires, tout le monde va mourir. Ben non, tout est entre les mains de Dieu et nous sommes assurés du triomphe. Du triomphe de la Vierge Marie. Et ça, je pense que c'est ça qu'il faut retenir de cette année.
Là, messieurs les ecclésiastiques, pour l'instant, l'avantage de l'espérance est au laïcat. Mais je vous laisserai répondre dans un instant à cette affirmation provocatrice. Terminons ce tour de table avec Olivier Figars. On va voir si la balance penche d'un côté ou de l'autre.
Alors, sur le plan religieux, je retiendrai de 2022, que et le politique et le religieux se sont mis d'accord pour contrer l'exercice du catholique traditionnel, du catholique en général, mais surtout du catholique traditionnel, et que ça ne marche pas. J'allais dire, pour nos pères, le pape était le chef suprême de l'Église. Aujourd'hui, c'est l'espèce de curé de tout le monde. Et ça ne marche pas d'être le curé de tout le monde, je crois.
Un curé reste un chef, malgré tout.
Oui, mais à un autre niveau, quand même. Voilà, donc je crois que, finalement, c'est toujours pareil. Les attaques sont toujours bénéfiques. Elles donnent peut-être un coup de un réveil aux gens qui se perdent peut-être par ailleurs, autrement dans une habitude un peu lénifiante. Sur le plan politique, en France surtout, parce que c'est quand même le pays que je connais le mieux, je noterai la capacité du mensonge à nous raconter un peu tout n'importe quoi, à commencer par notre cher président Emmanuel Macron qui nous a expliqué qu'il en avait marre de tous ces mensonges. Je dois dire que c'est assez fort et assez extraordinaire de la part de quelqu'un qui a tout fait pour générer la peur et qui dit « il ne faut surtout pas faire peur aux Français en leur racontant tout et n'importe quoi ». Il tape sur ses ministres. C'est une espèce de déconstruction du pouvoir politique par quelqu'un qui se l'arroge à soi-même. Alors je sais bien que la Ve République a été construite à la mesure d'un seul homme. Peut-être que Emmanuel Macron essaye de mettre l'habit à sa propre mesure, mais c'est assez drôle d'une certaine façon, mais assez triste en réalité de voir ce personnage nous raconter tout et n'importe quoi. Moi, je voudrais aussi évoquer l'arrivée de Giorgia Meloni en Italie très rapidement, parce que ça a un côté. Alors, je sais.
Encore faire des amis. Là, oui,
je sais qu'on a des tas d'analystes qui, derrière, nous disent bon, il y a l'argent américain, etc. Ça n'est pas ce point-là que je veux voir. Ce que je veux voir, c'est qu'il y a des Italiens aujourd'hui, les Italiens du peuple, pas les classes politiques importantes, qui sont contents de ce qu'on leur permette de faire des petites choses qui étaient bloquées. En Italie, on commençait à dire avant de ne surtout plus utiliser l'argent liquide. Ils peuvent à nouveau utiliser l'argent liquide comme ils le veulent. Donc, ils ont des petits espoirs au quotidien. Et je crois que la politique doit commencer par ça. Sinon, le citoyen ne s'y intéresse plus du tout.
Merci beaucoup, Olivier. Je ne voulais pas vous arrêter de parler, mais simplement de faire attention avec la table. Je suis quand même très marqué par le fait que traditionnis custodes, même si personne n'a donc le motu proprio du pape François sur la messe traditionnelle, personne ne l'a cité en tant que tel, mais c'est bien ce que vous vouliez dire tous.
Voilà, l'offensive contre la tradition.
C'est vraiment le point qui vous a le plus marqué. C'est un des points qui vous a profondément marqué les uns et les autres. Est-ce que c'est parce que vous voyez juste ça par rapport à votre propre situation, ou c'est vraiment pour l'Église dans son ensemble ?
La tradition, c'est l'Église. C'est ça la question. C'est ça la question. C'est que de l'offensive antitraditionnelle, c'est une offensive anti-Église. C'est ça qui est grave.
Oui, mais elle n'est pas conçue forcément comme ça par.
Non, mais je dirais, nous de la fraternité, soyons clairs, nous ne sommes pas affectés directement par cela, mais l'Église, à un moment où petit à petit la messe traditionnelle reprenait un petit peu d'ampleur, etc., l'Église en est gravement affectée parce que ça va encore retarder une amélioration d'un certain nombre d'années parce que il va falloir, s'enquister en attendant des jours meilleurs pour ceux qui voudront garder la messe traditionnelle dans les structures officielles. Oui, c'est un fait grave qui justement se télescope. C'est pour ça que j'ai cité les deux. Ce télescope avec le fait que dans l'Église, on va dire officielle, post-conciliaire, tout ce cas, existe quand même des remous incroyables et insensés. Et au lieu de résoudre ces problèmes extrêmement graves, on attaque la tradition et on attaque la messe traditionnelle et on attaque la vie chrétienne traditionnelle et on attaque la doctrine traditionnelle. Voilà qui me paraît grave parce que c'est vraiment l'inversion des valeurs. Il y a vraiment des choses dans lesquelles il faudrait prendre des actes courageux pour arrêter ce synode allemand, arrêter ces scandales des LGBT flamands, etc. Et la seule chose qu'on trouve à faire, c'est attaquer la messe traditionnelle.
Père Jean-François Thomas.
Oui, alors, cher monsieur, vous avez accusé le clergé autour de cette table de manquer d'espérance.
Je me demandais si la pique
s'allait être
relevée.
C'est très grave.
Je m'en confesserai.
Non, mais en effet, oui, on peut considérer qu'il y a un manque d'espérance à première vue. Mais ce n'est pas le cas. Je pense que monsieur l'abbé Cellier, comme moi, regarde chaque jour vers le ciel. Donc, ce n'est pas un manque d'espérance. Et tout ce qui se passe en ce monde, évidemment, est d'une façon ou d'une autre permis par Dieu. Donc il faut aussi savoir lire les signes des temps, comme nous invite l'Église...
Le Saint-Concile.
Mais il n'empêche que je ne pense pas que ce soit manquer d'espérance que de souligner ce qui est en train de dérailler, bien au contraire pour proposer l'antidote et pour travailler à l'antidote. Donc c'est à chacun, évidemment, c'est à chaque chrétien de le faire et de cette façon-là de faire vivre l'espérance. Mais tout ce qu'a pu dire, en effet, Jan Smith ou Olivier Figueras, il y a également de belles réalisations, oui. Mais ces réalisations... il faut vraiment les porter à bout de bras, parce que sinon, c'est le déferlement de tout le reste qui l'emporte.
Mais c'est un peu notre condition que de porter les choses à bout de bras.
Oui, mais ça n'a pas toujours été le cas, si vous voulez, dans une société dont le tissu était essentiellement chrétien. Maintenant, on est quand même dans une situation qui est très particulière, dans nos pays tout au moins, où le tissu n'est absolument plus chrétien. Donc on est vraiment la minorité de la minorité.
Non seulement le tissu n'est plus chrétien, mais il est antinaturel. La corruption. Au 19e siècle, si vous voulez, il y a de l'anticléricalisme, il y a tout ce que vous voulez, au début du 20e siècle, mais il reste des mœurs normales. Voilà. Aujourd'hui, tout est inversé. On est vraiment dans le signe de l'inversion radicale. Et donc, effectivement, le christianisme, n'imprègne plus cette société qui, de plus, se libère de toute loi naturelle, de toute raison normale. Et on arrive vraiment à des inversions complètes. On ouvre le journal, et encore une fois, les journaux dits de droite ou vaguement catholicisants sont entièrement pour ce qu'ils appellent les droits des femmes, pour l'avortement, sont pour l'euthanasie, sont pour les droits LGBT, etc. Je ne cite pas de nom, mais vous voyez un peu le genre de journal bourgeois puissant aujourd'hui. C'est insensé. Ce sont des journaux qui sont complètement d'extrême gauche, en réalité, sous prétexte d'être des journaux de droite. Et nous avons une société qui est complètement antinaturelle. Alors évidemment, elle ne peut pas être chrétienne parce que la grâce suppose la nature.
Je reviens quand même sur Traditionis Custodes, et pardon de ce que je vais dire, mais en même temps, j'ai l'impression que cette attaque forte de l'autorité suprême a certes trouvé des relais parmi la hiérarchie catholique, mais a suscité une réaction de la part des fidèles, et que ces mêmes fidèles, en fait, on ne se retrouve pas du tout dans la situation des années 70-80, où il y a eu une majorité de catholiques qui, malgré tout, suivaient cette opposition à la messe traditionnelle, là aussi décrétée par l'autorité suprême, à l'époque Paul VI, donc. Là, aujourd'hui, ça passe quand même beaucoup moins. Donc c'est un facteur aussi plutôt encourageant. Dans un catholicisme occidental plutôt rétréci, on va parler même spécifiquement de la France, les forces vives du catholicisme, sans être forcément des traditionalistes en tant que tels, pour le moins ne comprennent pas cette décision de l'autorité romaine.
Oui. Alors, ce que vous soulignez ici, moi j'avais l'intention d'en parler plutôt dans les perspectives de 2023.
Très bien, alors conservons-le bien au chaud, voilà. pour 2023. Est-ce que,
pour Traditionis Custodes, c'est vrai que cela nous a énormément marqué, mais nous sommes en général quand même, vous êtes privilégiés, vous n'avez pas de problème particulier. Il y a beaucoup de fidèles qui peut-être pas vous, mon père.
Pour la liturgie, vous voulez dire.
Pour la liturgie,
oui,
j'entends.
Les prêtres ont la messe au bout de leurs doigts.
C'est ce que je voulais dire, vous avez la messe. Et nous sommes, nous avons la chance d'être dans des diocèses, en gros, où nous circulons, où nous n'avons strictement aucun problème pour accéder à la messe traditionnelle. Mais ce qui est vrai, c'est que ça n'est absolument pas vrai partout. Qu'il y a, à mon sens, un dilemme terrible et des souffrances terribles pour beaucoup de prêtres diocésains, pour le coup, dont, à mon avis, on ne parle pas assez dans cette affaire de Traditionis Custodes.
Ouais, qui sont les premiers visés.
En fait, on leur dit que c'est une mauvaise messe. Et j'étais très frappée par ce qu'a dit Mgr Schneider, disant que cette Traditionis Custodes s'explique justement parce que la messe traditionnelle donne le plus exactement le sens de la vérité de la messe. Et véritablement, c'est une attaque justement de fond. Et il me semble que ça va encore beaucoup plus loin. C'est une attaque contre toute la théologie du Concile de Trente. C'est une attaque contre le sacerdoce. C'est véritablement un modernisme qui s'est installé qui se poursuit après la parenthèse, comme on dit, de Jean-Paul II et Benoît XVI, dont on peut raconter ce qu'on veut, mais ils ont quand même abouti à libéraliser l'accès à la messe traditionnelle. Et j'ai écouté tout à fait récemment les interventions d'un nommé Raphaël Luciani, qui est théologien vénézuélien. Il est laïque, il enseigne au Venezuela, aux États-Unis. Il est expert au synode, sur la synodalité. Je pense qu'on en parlera peut-être dans les perspectives. Mais ce qui m'a énormément frappé, c'est qu'il a mis en cause donc le caractère sacrificiel de la messe. Il a dit finalement les confinements c'était très bien parce qu'on a jeûné du pain pour se nourrir de la parole en petite communauté chez soi, c'est beaucoup plus important. Finalement on arrive à inverser ce courant très rigide du Concile de Trente. Bref, le Concile de Trente c'est l'ennemi, mais il ajoute nous sommes à un moment kairos, un moment où ça va, en gros ça passera ou que ça cassera. Il y a chez ceux qui en ont contre la messe traditionnelle, mais tout ce qui l'entoure et tous les sacrements traditionnellement conférés, il y a cette espèce de volonté d'en finir avec une ecclésiologie, et ils savent qu'ils doivent aller vite, ils doivent l'imposer d'un coup, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Et je trouve que ça, c'est aussi porteur d'espoir.
Finalement.
Ils jouent leur va-tout, ça c'est clair, ils jouent leur va-tout.
Alors en fait, moi je trouve que c'est plutôt intéressant parce qu'au début de l'année 2022, on avait noté que les communautés traditionnelles, quelles qu'elles soient, avaient finalement accueilli un certain nombre de fidèles supplémentaires du fait de la dictature sanitaire. Et je trouve que Traditionis Custodes a un peu fait le même mouvement. J'ai plusieurs témoignages de gens qui se sont dit un beau jour « Mais quelle est cette messe dont Rome ne veut plus entendre parler ?» qui sont venus y assister dans l'une ou l'autre paroisse où il peut m'arriver d'aller à la messe, comme je bouge beaucoup, c'est jamais très toujours les mêmes. J'ai eu plusieurs témoignages de gens qui ont dit « On est venu pour voir à quoi ça ressemblait et on est resté. » Et je trouve que c'est intéressant comme démarche, quoi. Finalement, Si le truc, si je puis dire, c'est de voir ce qui marche ad experimentum, bah, ce qui marche ad experimentum, c'est la messe traditionnelle.
Oui, effectivement. Et on pourrait rajouter dans ce sens-là, parce que ça concerne non seulement les fidèles, mais aussi les séminaristes qui sont rentrés dans les
séminaires, massivement, oui,
dans les séminaires traditionnels de manière complètement... Enfin, il faut vraiment avoir la foi, là, pour le coup, avec une bonne dose d'espérance pour...
Plus on tape dessus, plus ils rentrent.
Voilà, plus on tape dessus, plus ils rentrent. Changeons un peu, si vous voulez bien, de sujet. Est-ce qu'il y a des personnalités qui vous ont... Voilà, j'ai l'impression que j'ai prononcé un mot horrible. Est-ce qu'il y a des personnalités qui vous ont marqué pendant 2022, ou pas du tout, en fait. Il n'y a pas de personnalités qui ont émergé, je ne parle pas forcément de chanteurs de rock, quoi, qu'avec vous.
On pourrait en parler longtemps, mais on réservera ça à une autre émission musicale. Moi, ce que j'ai noté, l'évolution de Mgr Schneider m'intéresse. Je le vois évoluer, je le vois au fur et à mesure des livres ou des interventions dans lesquelles il prend de plus en plus conscience des choses, etc. Donc, cette évolution m'intéresse. Également, peut-être un peu plus lointain, parce que je suis un petit peu plus réticent à son égard, mais Mgr Vigano également, dont l'évolution est relativement intéressante. Voilà, c'est des personnalités que je suis de loin, parce que, bon, je ne suis pas très sur Internet, etc. Mais, bon, en tout cas, des gens...
Donc, personnalités ecclésiastiques
qui réfléchissent sur la situation actuelle de l'Église et qui font des diagnostics et qui proposent des solutions intéressantes dans la situation actuelle de l'Église et qui se libèrent justement de la bien-pensance et du prêt-à-penser ecclésiastique.
Père Jean-François Thomas.
Alors, je parlerai moins de personnalité que de personne.
Que de personne, très bien.
Personnalité politique, je laisse ça entre parenthèses, évidemment. Et les personnalités ecclésiastiques, ce serait plutôt, en effet, comme M. l'abbé Cellier, Mgr Schneider, que j'admire beaucoup et qui, je pense, est pour notre époque un très beau modèle épiscopal. Mais sinon, ce sont les personnes simples qui m'ont le plus marqué cette année, et notamment des personnes qui ont été les premières victimes des mesures sanitaires. Je pense, par exemple, à un certain nombre d'infirmières que je connais, qui ont perdu leur poste parce qu'elles ont refusé, avec leur juste liberté, elles ont refusé d'être vaccinées, et qui tiennent bon, et qui ne tiennent en fait que par la foi, et qui ne tiennent que par la messe traditionnelle. Et puis aussi, la seconde catégorie de personnes qui continuent de faire mon admiration, alors ce n'est pas propre à cette année, ce sont les pénitents. Je trouve que pour un prêtre, c'est ce qu'il y a de plus consolant.
Les pénitents, en fait. Ceux qui viennent se confesser.
Viennent se confesser. C'est ce qu'il y a de plus consolant. Alors, évidemment, la grande consolation, c'est la célébration de la Sainte Messe. Mais avec la célébration de la Sainte Messe, c'est vraiment recevoir des pénitents et être l'instrument, le canal de la miséricorde divine.
Madame Jeanne Smith.
Mgr Schneider, oui, on le voit effectivement.
Donc là, il est au top.
Mais malheureusement, je crois qu'il est... On le remarque parce qu'il est vraiment quasi seul. Et je ne... personnellement, je ne suivrai pas votre... l'ajout de Mgr Vigano parce que il me semble qu'il s'exprime sur certains sujets d'une façon un peu étrange et appuyant le risque cédévacantiste. Je suis assez en retrait à cet égard, mais Mgr Schneider, au contraire, recherche l'unité de l'Église sans qu'elle soit factice, et je trouve qu'il présente là une forme d'équilibre entre la charité et la fermeté qui est tout à fait intéressant. Oui, de même, les politiques nous ont beaucoup déçus. Je pense notamment, alors je n'étais pas spécialement espérante à son égard, mais Marine Le Pen qui a proclamé que la constitutionnalisation du droit à l'avortement, ça pouvait être une bonne chose pour des raisons assez tordues. Ça ne m'a pas surpris, mais néanmoins, ça m'a quand même déçu. Sur le plan politique, il me semble que la leçon de l'année 2022, c'est qu'en effet, on peut avoir quelques, quelques freins à l'évolution générale qui semble nous mener vers une dictature à la chinoise, mais que dans l'ensemble, personne n'a le courage véritablement d'aller beaucoup, beaucoup plus loin, sauf peut-être certains hommes politiques aux États-Unis, je pense à Ron DeSantis ou à d'autres, mais sinon on est dans la domination du mensonge et de la manipulation qui pour moi s'étend de Biden à Xi Jinping en passant par Poutine, donc tout ce monde-là, je l'exècre un peu. J'ai beaucoup d'admiration en revanche pour les jeunes, et spécialement les jeunes qui se font professeurs, qui font des familles, qui font preuve d'une espérance surnaturelle qui, elle, me réjouit beaucoup et qui, pour moi, passe par la vie amicale et que cette vie amicale, contre tout ce qui a été déployé contre elle, continue et continue dans une communauté d'idées de combat, cela, ça me réjouit énormément. Donc, comme le père Thomas, oui, il y a des catégories de personnes qui me donnent des raisons d'espérer.
Alors, au début de votre intervention, j'allais dire que le clergé avait repris la tête de l'espérance. Oui. Vous terminez sur une note d'espérance. Oui. Donc, on est à peu près ex aequo dans le match amical entamé. On va voir ce que Olivier Figueras va nous dire à propos des personnalités ou des personnes.
Oui, moi j'abonderais dans le sens des personnes, justement, que ce soit dans le cas de la persécution sanitaire ou dans les difficultés religieuses que nous vivons. Je trouve que les petites gens, ça n'est pas péjoratif, bien au contraire, mais les anonymes, enfin en tout cas qui ne sont pas connus du grand public, sont des gens qui ont réagi en fonction de leur bon sens. Le bon sens n'évite pas toujours de faire des erreurs, mais au moins on se tient à quelque chose de normal. On ne part pas à écouter toutes les oreilles qui vous démangent, comme dit la Bible. On suit ce qui paraît bien ordonné. Et alors tout le monde ne le fait pas, évidemment, mais il y a beaucoup de gens qui le font au préjudice parfois de leur temps de plaisir ou de leur tranquillité personnelle vis-à-vis de certains membres de leur famille ou autre. Non, je suis assez admiratif de cela.
La balance et l'équilibre sur l'espérance est donc certaine. Ce que je note de tout ce que vous avez dit, c'est l'effacement des personnalités, en fait. Oui. La disparition, à quelques très très rares exceptions qu'on remarque d'autant plus qu'elles sont seules, quasiment.
Comme disait Solzhenitsyn, hein, c'est le déclin du courage.
Oui, on repart sur un côté plus pessimiste.
Les personnalités n'ont plus rien à proposer. Elles ne font que répéter des mots d'ordre qui viennent de partout.
Au sens strict, non, voilà. Sont plus des personnalités. J'avais demandé éventuellement aux uns aux autres s'il y avait quelques ouvrages ou lectures qui vous avaient, c'était pas une obligation, mais qui vous avaient retenu. Alors l'abbé Cellier, lui, s'impose une fois de plus. C'est quand même une des marques de 2022, 2021, 2020, 2010, enfin bon, voilà, etc.
Je vous rassure, ça sera 2023.
Ça sera. Donc ça, dans les perspectives qu'on va aborder dans un instant, quels sont les ouvrages qui vous ont retenu, monsieur l'abbé Cellier?
J'ai pris trois ouvrages de 2022, parce que moi, je lis des choses qui ont 10 ans, 20 ans, 15 ans, sans problème. Mais voilà, donc un très beau livre d'Anne Bernet, qui est toujours une auteure de grande qualité, sur la vie de Michel Guérin, le curé de Pontmain.
Faites-le voir à la caméra.
Voilà, je le montre à la caméra. La simplicité, la grâce. Michel Guérin, le petit curé de Pontmain. Très belle biographie. De Marcel Decorte, c'est une édition originale qui n'avait jamais été faite, sur Descartes, philosophe de la modernité. Je le montre. Hein, Marcel Decorte est un grand auteur. Et là, il nous présente ce philosophe qui a fait déraper la philosophie. Et donc, c'est extrêmement intéressant. Et enfin, un bouquin, moi, c'est toujours le 19e, vous me connaissez, n'est-ce pas? Et donc, c'est début...
On vous découvre à chaque fois.
Voilà, début du 20e, dans la fin du 19e.
Ouais, c'est absolument 19e, passionnant comme
histoire. Le 19e se finit en 1914, pour les historiens. Donc, c'est un livre sur la Fédération nationale des jaunes, c'est-à-dire le syndicat qui a compté plus de 100 000 adhérents, peut-être 300 000 adhérents, et qui a défié la CGT, qui n'a malheureusement pas abouti parce que son leader est passé à la politique, ce qui était une erreur. Et c'est très intéressant, c'est à partir de l'analyse des ouvrages, et notamment de la revue qui s'appelait Le Jaune, de l'idéologie de ces jaunes, donc un syndicalisme tricolore, qui est un syndicalisme...
C'est donc de Didier Favre.
Voilà, très, très beau livre. Les Jaunes, un syndicalisme tricolore, le syndicat qui défia la CGT.
Merci, monsieur Lavé. Mon père, vous avez des lectures, ça je sais que vous en avez. Vous écrivez aussi des livres, enfin l'un et l'autre d'ailleurs. Alors
je recommanderais deux lectures. Une qui est très ancienne, donc un certain nombre de spectateurs ont sans doute déjà lu ces ouvrages. Ce sont les deux volumes dans la collection de la Pléiade du journal de Paul Claudel, qui mériterait d'ailleurs une réédition avec des notes plus fraîches. Mais les notes étaient faites par le père François Varillon et par Jacques Petit, donc ce sont des notes qui sont très intéressantes. Et le journal est particulièrement passionnant parce qu'on voit l'évolution de la pensée et de l'écriture de Paul Claudel. Et puis le second ouvrage, c'est « Un chemin de conversion », la correspondance de Charles Maurras avec deux carmélites de Lisieux, dont la sœur Pauline de Sainte-Thérèse de Lisieux. Ça leur avait été demandé par le pape Pie XI. Et cette correspondance est tout à fait passionnante et montre également l'évolution spirituelle de Charles Maurras.
Donc aux éditions Teki.
Aux éditions
Teki. Un livre qui est paru en fin 2022.
Oui.
Cher Olivier, on vous a appris un peu au débeauté sur cette question, comme sur les autres d'ailleurs. Mais je ne doute pas, vous qui êtes un grand lecteur, que...
Oui, alors en 2022, je n'ai guère lu de livres nouveaux.
Mais peu importe sur la nouveauté,
pour des raisons
qui vous ont marqué.
Pour des raisons très personnelles, j'ai relu beaucoup d'ouvrages de mon père, ce qui limite...
Donc André Figueras,
ce qui limite ma réponse, mais parce que j'essaye de prévoir quelques petits travaux sur la question... Donc je me suis beaucoup plongé dans ces ouvrages. Et sinon, j'ai papillonné dans ma bibliothèque qui est assez importante.
Je peux en témoigner, oui.
Avec un intérêt particulier ces derniers temps pour Charles Maurras, ce qui n'étonnera pas ceux qui me connaissent. Mais donc je n'ai pas de choses particulières, sauf que je recommande aussi bien Charles Maurras qu'André Figueras, bien évidemment.
Et dans les livres de votre père, André Figueras, il y en a un qui marque plus que d'autres, ou pas du tout, en fait, où ils sont à égalité?
Ils ne sont pas à égalité, mais ils sont très différents. Donc, l'approche est... Non, mais on ne peut pas parler de ces recueils de poèmes de la même façon qu'on parle de ces livres contre De Gaulle. C'est vraiment des choses très différentes, et quasiment deux auteurs différents. Donc, là, je me suis replongé un peu vraiment dans le plus ancien, donc dans les recueils de poèmes qui n'existent plus. Donc, je vous dis, c'est pour un petit travail que je fais pour moi. Mais dans les livres qui existent aujourd'hui, je crois que les mémoires sont intéressants.
Mémoires intempestives.
Oui, intempestives.
Intempestives, oui, effectivement.
Les mémoires sont intéressants parce qu'ils sont l'image d'une époque.
Très bien, merci. Et ils sont toujours disponibles.
Toujours disponibles.
Jeanne, vite, parce qu'il nous reste peu de temps pour les perspectives 2023, presser.
J'ai été très frappée, il se trouve que j'ai traduit la messe catholique de Mgr Schneider, pour y revenir. C'est un livre qui décrit la réalité de la messe d'une façon que je regrette de ne pas avoir découvert avant. Et pour reprendre le mot d'une sœur bénédictine, pourtant habituée de la messe, c'est une professionnelle, elle aussi, d'une certaine façon, de la chose. Elle dit qu'on n'assiste plus à la messe de la même façon après avoir lu ce livre. Et vraiment, c'est pour moi un livre extrêmement marquant. Et un autre, puisqu'on va vite, c'est « La pensée captive » de Czesław Miłosz, polonais, qui a été réédité cette année. Il y a 2-3 mois, donc fin 2022.
Fin 2022, oui.
Et c'est un livre merveilleux parce qu'il explique comment, sous le communisme, des gens s'arrangeaient, des intellectuels, pour vivre quand même sous cette emprise. Et il montre en fait quelles compromissions on en arrive à faire et comment ça se passe psychologiquement. Et je trouve que pour notre époque, c'est vraiment intéressant.
Rapprochement très intéressant. Merci beaucoup, pardon, de vous presser les uns les autres, puisque la dernière partie de notre émission, mais je n'ai pas vu le temps... Le temps s'est écoulé.
Oui.
Vos perspectives 2023.
Alors en
deux mots, trois, allez.
Floraison de la tradition, à mon avis, et puis aussi une année de résistance.
Voilà. Résistance à...
À tout.
À tout. Autant au plan civil que...
Voilà, civil, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mauvais évidemment.
Et mais c'est un appel ou c'est, vous pensez que le...
Ah non, je pense que...
Que les gens vont se...
Je pense qu'il y aura une mobilisation, comme on dit aujourd'hui.
Ah, très bien.
Oui.
Olivier Figueras.
Mais je suis tout à fait d'accord avec le père Thomas. Je m'interroge seulement sur les moyens de faire connaître ce qui nous fait vivre... à ceux qui, manifestement, n'en ont jamais entendu parler. Alors j'espère que les hommes en noir vont augmenter leur audience à grande vitesse.
On peut faire ce souhait, mais grâce à vous, certainement. Merci. Jeanne, puisque je vous ai un peu pressé tout à l'heure, je vous donne peut-être un peu plus de temps.
Un peu plus de temps, si vous voulez. Les perspectives me semblent assez noires. Alors là, je crois que les ecclésiastiques, ils sont en train de gagner.
Gagner.
Je pense que l'Église va au-devant de très grandes turbulences, notamment avec le synode sur la synodalité que je l'ai brièvement évoqué tout à l'heure. Je pense que c'est une attaque en règle contre ce qu'est l'Église, contre son principe hiérarchique, contre son...